Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue avec nous en cette journée consacrée aux rencontres altéridées ici à l'ENS de Lyon. Nous sommes avec Transistor, et en face de Nassima et de moi, Roméo, il y a monsieur Yann Padova, que nous allons interviewer dans quelques instants. Alors, qui est monsieur Yann Padova, Nassima ?
Yann Padova est secrétaire général à la CNIL, Commission nationale information et liberté. Il est venu nous faire un exposé sur le thème « Peut-on encore être heureux dans la société numérique ?» Et nous allons maintenant passer aux questions. Roméo, la première question.
Monsieur Yann Padova, vous nous avez donc fait un exposé très détaillé sur la question de savoir si on peut être encore heureux aujourd'hui dans une société numérique. Moi, la première question qui me vient à l'esprit lorsque je vois l'intitulé de cet exposé, eh bien, j'ai envie de demander à la personne qui le fait qu'est-ce qu'être heureux selon elle ? Donc, qu'est-ce qu'être heureux selon vous, monsieur Padova ?
Être heureux, selon moi, ce serait prétentieux, mais en tout cas, dans le cadre de mon intervention, c'était être heureux, c'est être certain qu'il existe toujours un espace de vie privée, un droit à l'intimité, à l'incognito, un jardin secret, que ce jardin secret ne sera pas durablement altéré par le développement de l'économie et de la société numérique.
D'accord.
Mais alors, par rapport à cela, nous pouvons... Donc vous concevez, si je comprends bien, le bonheur comme une affaire en quelque sorte privée. Donc.
Je pense que parmi les conditions du bonheur, parmi les nombreuses conditions du bonheur, il y a cette existence d'une sphère privée, d'un droit à l'intimité, au jardin secret, et que mon intervention était organisée essentiellement pour montrer les dangers finalement des instruments de surveillance aujourd'hui qui se diffusent. Le danger du Big Brother, c'est-à-dire de la surveillance par l'État notamment, mais aussi le danger que j'ai qualifié de Little Sister, c'est-à-dire de tous les systèmes de surveillance qui sont disséminés et qui sont mis en œuvre par les entreprises, par soi-même, par ses amis, et qui arrivent au bout d'un moment à un véritable traçage des personnes qui fait qu'elles n'ont plus la possibilité ni de changer d'avis, ni de changer de vie, ni de se déplacer anonymement. C'est pour ça que j'ai tenu à montrer à quel point la protection des données et de la vie privée était une des conditions du bonheur, parce qu'une des conditions d'exercice de liberté fondamentale.
D'accord. On va revenir maintenant sur votre travail de secrétaire général. Comment êtes-vous entré à la CNIL, à la Commission nationale information et liberté ? Et pourquoi ? Pardon, Commission nationale informatique et liberté. Et pourquoi avoir engagé une carrière et en quelque sorte un combat dans ce domaine-là ?
Alors moi, je suis arrivé à la CNIL en septembre 2006. J'ai été choisi par le président de la CNIL, qui est donc le sénateur Alex Turc. Et je ne vais pas faire toute ma carrière dans ce poste-là. Moi, je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. C'est-à-dire je suis administrateur de l'Assemblée nationale. Et j'ai choisi de ce poste parce que c'est une très belle institution, parce que les défis aujourd'hui sont considérables, parce que le numérique se développe beaucoup, et que c'est pour moi une institution d'avenir avec des problématiques sociales extrêmement importantes. Et donc je trouve que c'est un très beau combat et une très belle institution que je suis heureux de servir pendant les quelques années que je ferai comme secrétaire général.
D'accord.
Donc si on repart directement du numérique, nous sommes en quelque sorte dans un contexte de déshumanisation croissante, en quelque sorte, des sociétés humaines, et par conséquent, on peut observer, dans les faits, une certaine dégradation du lien social. Et si on part du principe qu'être heureux, c'est partager, comment peut-on envisager d'être heureux dans une telle société où le lien social est en train petit à petit de
s'effacer,
en quelque sorte ?
Si le lien social s'efface, ce n'est vraisemblablement pas à cause du numérique. Le numérique, il va être un révélateur, peut-être un facilitateur de certaines tendances. En même temps, certains outils veulent créer du lien. L'explosion des réseaux sociaux, comme je disais, un chanteur très adulé par les adolescentes à 25 millions d'amis, Évidemment, c'est très difficile d'avoir 25 millions d'amis, mais il y a aussi de la création de liens par les instruments numériques. Donc, il ne faut pas du tout diaboliser ces techniques. Simplement, s'il y a une dissolution du lien dans la société, le numérique est neutre. Il peut permettre d'en recréer, il peut permettre de le distendre. La question essentielle, c'est la volonté et le contrôle. C'est-à-dire, si on veut être seul et tranquille, il faut qu'on puisse l'être. C'est un droit fondamental, un droit à la tranquillité, qui peut ne plus être garanti s'il y a des systèmes très intrusifs, de la vidéosurveillance, de la géolocalisation qui se développent, et qui font que même quand vous le souhaitez, vous êtes tracé et suivi.
D'accord. Pour revenir sur cette anecdote de ce chanteur aux 25 millions d'amis, Justin Bieber, qu'est-ce qui est devenu pour vous, à l'aune de cet exemple, l'amitié, en quelque sorte, à l'ère du numérique?
Moi, je sais ce qu'est l'amitié. À l'âge du numérique, je pense qu'elle n'a pas changé. L'amitié, c'est... ce sont des personnes dont on est proche, avec lesquelles on partage vraiment des moments importants de la vie, des émotions, des valeurs aussi communes, ou en tout cas des débats là-dessus. C'est donc forcément un nombre de personnes limité, selon moi. Et c'est pour ça que 25 millions d'amis est pour moi un contresens dans les termes, une impossibilité logique, parce qu'un ami, c'est une personne avec laquelle on a une relation affective proche, privilégiée, et évidemment, il est impossible d'en avoir plus que, je ne sais pas, je vous laisse libre, mais maximum... quelques dizaines.
Donc avant de passer à la question suivante, donc une certaine banalisation de la notion d'ami, donc en quelque sorte malgré tout.
Ben, c'est aussi le résultat d'un prodigieux sens marketing. Les fondateurs de cette société-là sont des génies des affaires. Développer un service sur le web qui est extrêmement profitable avec grâce aux informations que les personnes divulguent elles-mêmes sur elles et sur les autres. Et grâce aux informations que ça produit, développer des profilages commerciaux, développer des offres de produits, des partenariats avec des entreprises, tout en se fondant sur une notion d'ami et donc sur quelque chose de désintéressé, moi je trouve que c'est une invention commerciale extraordinaire. Mais il ne faut pas être dupe du fait que ce sont avant tout des sociétés qui doivent faire de l'argent. Et ce n'est pas bien ou mal. C'est nécessaire que les entreprises fassent du profit et c'est leur but, donc c'est bien. Mais il ne faut pas être dupe du terme d'amis utilisés par une entreprise commerciale.
D'accord.
Très bien.
Vous-même, vous avez beaucoup d'amis sur Facebook?
Quelque chose comme 363.
Ouais, tout de même.
Je connais même le nombre.
Mais il y a aussi tous les fans de sa voix à la radio et tout.
Ah oui, ça
c'est. De ma voix grave et sensuelle. Ouais,
c'est un atout.
Pour passer à un autre point, la CNIL a récemment condamné Google Street View pour un ensemble de manquements à la loi informatique et liberté. Or, quel pouvoir avez-vous face à un géant comme celui-ci? Parce que, en fin de compte, 100 000 euros d'amende, ce n'est pas grand-chose, ça ne va pas ébranler Google.
Bah, du point de vue financier, vous avez raison, 100 000 euros sur une entreprise qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires... on est loin de vouloir les déstabiliser en termes de chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est aussi de montrer la volonté de la CNIL de réprimer des agissements qui sont contraires à la loi et aux valeurs européennes. Et c'est plus la publicité, la notoriété de cette sanction qui va peut-être changer la stratégie, en tout cas changer certaines choses chez Google, que le montant financier. C'est vrai que ce n'est pas le levier qui est recherché, c'est plus l'image, la notoriété qui vont être touchés par une sanction qui est rendue publique de la sorte.
D'accord.
Une dernière question, aussi sur l'actualité. Enfin, pas vraiment sur l'actualité, sur le sujet que vous avez développé.
J'espère que vous n'êtes pas déprimé. Alors, est-ce que vous serez heureux dans la société qui est la vôtre, la nôtre?
Nous sommes tous très heureux.
non, ça va. comme vous y avez fait référence, sur Internet, nous nous trouvons de plus en plus souvent face à de la publicité ciblée. Cela donne l'impression désagréable et d'être observé, épié. Cette publicité, elle repose sur une connaissance détaillée du profil des internautes. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure elle peut être autorisée par la loi ou jugulée par la loi?
Merci. C'est une très bonne question. La prospection commerciale et le profilage sont tout à fait sont des activités légales. Hein, donc, on est dans une économie de marché, donc ce genre d'activité est tout à fait autorisé. Simplement, le droit européen prévoit que vous devez être en mesure de vous opposer à la prospection commerciale sans motivation et sans frais. Donc lorsque vous adhérez à des services comme cela, vous, dans les conditions générales d'acceptation, vous acceptez généralement, si vous lisez attentivement, le fait que vos données vont pouvoir faire l'objet d'un profilage et vous allez recevoir de la prospection. Mais si vous souhaitez refuser de recevoir des publicités, c'est tout à fait possible, du moins en Europe. Et c'est un des problèmes,
d'accord,
c'est que ces services-là ne sont conçus en dehors du droit européen.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Padova.
Eh bien, merci, Monsieur Romero. Et Mademoiselle.
Vous venez donc d'écouter Monsieur Yann Padova, secrétaire général de la CNIL.